Si ?
Il est beau
en plus, il est un peu sudiste. Hein ?
Vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et nous le remercierons éternellement. Après le message, nous aurons le repas du Seigneur où justement on se rappellera ce cadeau de Dieu pour nous. Ce matin, j'aimerais prendre un passage dans la première épître de Pierre. C'est dans le Nouveau Testament et au chapitre 4. Et ce message va un peu dans le sens de celui de notre frère Jean-Luc la semaine dernière. Comment vivre en attendant le retour de Christ. Et là, c'est comment vivre simplement en tant que chrétien aujourd'hui, en 2015. Donc, première épître de Pierre, c'est vers la fin du Nouveau Testament. Et au chapitre 4, je vais lire les premiers versets. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Ici, l'épître de Pierre s'adresse à des chrétiens persécutés qui souffraient beaucoup dans leur chair. Et ils vivaient dans un monde hostile, un monde païen, où la religion païenne était la religion principale. Donc on adorait, on vénérait toutes sortes de divinités. Et il y avait régulièrement, une fois par semaine, des orgies criminelles, comme il dit. C'est-à-dire, pour le tel ou tel dieu, on pratiquait des orgies. Et les chrétiens, lorsqu'ils devenaient chrétiens, hein, lorsque ces païens devenaient chrétiens, se convertissaient au Dieu vivant, Dieu de la Bible, eh bien, étaient calomniés et parfois même persécutés parce qu'ils ne continuaient pas dans la débauche d'avant. On disait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenus vraiment des athées. Hein, on traitait les chrétiens d'athées parce qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu, au lieu d'en avoir une pléthore. Et ce n'était pas facile de mener sa vie chrétienne à cette époque-là, et ça n'a jamais été facile d'être chrétien, parce qu'on marche un petit peu à l'envers du reste du monde. Ici, il nous montre qu'on a un choix. Soit on vit dans le péché selon le train de ce monde, et on va avoir une vie peut-être tranquille, c'est-à-dire on n'aura pas de persécution, on n'aura pas de problème. Comme on sera conforme au monde, eh bien le monde sera content avec nous. Soit on décide de vraiment suivre Jésus-Christ, de refuser le péché dans notre vie. Et là, on va entrer dans certaines souffrances, certaines oppositions. Alors le chrétien est appelé à être quelqu'un de responsable. Souvent, je disais moi-même quand j'étais athée, « Oh, quand on est croyant, on n'est plus responsable, on compte sur Dieu. » Voilà. On suit la religion bêtement. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai avec la Bible. La Bible nous rend responsables. Elle dit, tu as le choix. D'abord, tu as le choix entre le péché et la perdition et Jésus-Christ et le salut. Ça, c'est le premier choix essentiel. Mais ensuite, quand on est devenu chrétien, on a plein de choix de marcher selon la chair ou de marcher selon l'esprit, de continuer dans le péché ou de commencer à avoir une vie sainte. Et ici, il nous parle de ça, de ce choix. On ne doit plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ qui en a fini avec sa vie de péché? Est-ce que la vie de péché, c'était derrière moi? Ou est-ce que je continue ma vie de péché? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ici, on voit ce qui fait tourner le monde. Au verset 2, c'est la convoitise. La convoitise, c'est-à-dire désirer des choses qu'on n'a pas. Et les désirer très fort, et tellement fort qu'on est prêt à tout pour les avoir. On est prêt à vendre son âme, on est prêt à faire de la violence, on est prêt à mentir, à tricher, à tout, pour avoir cette chose que l'on convoite. Et la convoitise est sans fin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Qu'on voit toujours. On pense, ça y est, maintenant je suis satisfait, et puis non, on n'est pas satisfait. J'aime toujours l'histoire de ce jeune guitariste classique aux États-Unis. Son père lui a dit, il faut qu'à 30 ans, tu sois millionnaire en dollars. Et c'était son but dans la vie, à 30 ans, j'aurai 1 million de dollars sur mon compte. Et donc, il a travaillé la guitare classique, mais vraiment des heures et des heures et des heures. Et il a commencé à faire des concerts, à faire un CD, etc. Et à 30 ans, il avait son 1 million de dollars. C'est assez jeune quand même, c'est pas mal hein, comme réussite. Il a travaillé très dur hein, pour l'avoir. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Sauf qu'il s'est dit, maintenant que j'ai mon 1 million de dollars, je vais le placer et je vais vivoter, je vais faire des petits concerts de guitare de temps en temps, mais je vais profiter de la vie. Et donc, il s'est acheté une belle maison à la campagne et il a acheté un matériel pour faire la pêche et il est allé à la pêche à la ligne. Et au bout de 3 ou 4 semaines de pêche à la ligne, il s'est ennuyé, mais alors profondément ennuyé. Il s'est dit, mais c'est ça la vie? Je m'ennuie, je veux quelque chose de vrai. Il est rentré dans sa belle maison de campagne qu'il avait achetée avec son 1 million de dollars et il s'est dit, c'est pas ça la vie. Et il a commencé à chercher et à déprimer beaucoup jusqu'à ce qu'il croise des chrétiens. Il est allé à l'église le dimanche, il a entendu l'évangile et il a accepté la bonne nouvelle. Et là, sa vie a pris un nouveau tour, un nouveau départ. La convoitise ou Dieu? Qu'est-ce qu'on cherche? Ici, il dit, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair, hein, nous devons faire la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre. On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. On ne sait pas combien d'heures. On peut compter en heures, hein, les années. Et on se dit, voilà, j'ai quelques milliers d'heures qui me restent. Là, tout de suite, ça raccourcit la vie hein, quand on compte en milliers d'heures. Quand on compte en années, les années, oh là là, bon, j'ai plusieurs années, mais j'ai des milliers d'heures, mais vite, profitons de ce temps pour vivre selon Dieu. L'incrédule, celui qui ne connaît pas Dieu, va chercher des choses pour occuper son temps, et il y a ce qu'on appelle les conquérants de l'inutile. Je ne sais pas si vous les connaissez, les conquérants de l'inutile, ce sont des gens qui font des exploits qui ne servent à rien et qui mettent en danger leur vie. Il y a beaucoup de jeunes hein, dans ce cas, ils vont faire du ski hors piste, ils vont sauter en parachute, sauter du haut des tours. YouTube est rempli de vidéos de fous qui cherchent, on dirait qu'ils veulent se suicider en permanence, bien qu'ils contrôlent à peu près ce qu'ils font, mais ils prennent des risques insensés. Et pourquoi? Pour dire, voilà, j'ai pris des risques, pour avoir l'adrénaline certainement, mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas parce que j'ai une poussée d'adrénaline, que je prends des risques, que mon cœur bat fort, que je suis en train de vivre vraiment. C'est une illusion vraiment. La vie, c'est quand notre vie compte pour les autres, quand notre vie sert à quelque chose, quand nous sommes dans l'amour, dans le don de soi, mais chercher soi-même son plaisir personnel, ça n'apporte finalement pas grand-chose. Avant de connaître Christ, certains d'entre nous, et je suis le premier, vivaient aussi dans ces ivrogneries, ces convoitises, et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Simplement, un jour, nous avons entendu l'Évangile et nous avons cru au Seigneur et il nous a pardonné. On n'a pas à juger les païens ou à les considérer comme d'horribles personnes. Ce sont des hommes comme nous. Mais par contre, on ne doit pas suivre leur façon de faire. On ne doit plus suivre leur façon de faire. Le chrétien ne marche plus selon la convoitise des hommes, ici il dit. On doit être différent. Et le chrétien ne doit pas être différent juste pour être différent ou bizarre. Il y a des personnes qui s'épanouissent en étant bizarres. D'ici, je mets un chapeau un peu d'une forme excentrique ou des vêtements avec des couleurs flashy ou si je me teins les cheveux en vert, les gens vont me remarquer. Mais le chrétien n'est pas comme ça. On ne cherche pas à se faire remarquer. On ne veut pas être bizarre ou différent juste pour dire « Ah, moi, je ne suis pas comme les autres. » Parce que ça, c'est de l'orgueil. Hein, de penser « Ah oui, moi, je suis sous-entendu supérieur aux autres. » Mais par contre, le chrétien est obligatoirement différent du monde parce qu'il est, il ressemble à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas le modèle qui est pris par notre société. Et donc, il faut accepter d'être différent. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est fait de chair, n'est-ce pas? Et on aime bien se couler dans le moule. On aime bien que tout le monde nous aime, tout le monde nous accepte. Mais un chrétien ne peut pas avoir ça dans sa vie. C'est une chose, il faut y renoncer. Tout le monde ne va pas m'aimer et m'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer Dieu en moi, Dieu Christ en moi. Même il y a certains qui vont vouloir me persécuter. Et il faut l'accepter. Il faut prier pour mes persécuteurs, les bénir. Et continuer à être différent. Dans l'épître de Pierre, hein, il y a des versets très importants. Il dit par exemple au chapitre 1, verset 15, ce qui veut dire par être différent. Mais puisque vous, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous devons être saints. Pourquoi ? Parce que notre Père est saint. La sainteté dans la Bible, c'est cette séparation du péché. La sainteté, c'est ne pas faire comme tout le monde, ne pas suivre le péché, les convoitises comme les autres. C'est ça, être saint. C'est positif aussi, hein? C'est dans le sens, c'est manifester tout le caractère de Dieu, ressembler à Dieu qui est saint. Et pourquoi on doit être saint, il dit ? Parce que notre Père est le juge et parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Si un chrétien continue à vivre dans le péché, quelque part, il méprise le sacrifice et le sang précieux de Christ. Ce sang a coulé pour qu'on soit lavé du péché, pas pour qu'on continue dans le péché. Et donc, un chrétien qui continue dans le péché volontairement, il est en train de mépriser la croix de Christ, le sacrifice, le sang précieux de l'agneau. Et en tant que chrétien, on doit s'en repentir. On doit vraiment venir à Dieu et dire, Seigneur, je te remets mes péchés, je ne veux plus vivre dans le péché, je veux vivre selon ta volonté dans le temps qui me reste à vivre. Je veux vivre avec crainte. Crainte, c'est avec ce respect profond pour notre Dieu qui est saint et qui est le juge. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, pas croyant, sachez que la plupart d'entre nous étaient dans ce cas ici. Hein? Et nous ne sommes pas nés chrétiens. Même si peut-être nos parents nous ont baptisés, hein, fait baptiser à l'église, on n'était pas chrétien pour autant. Hein? Pour être chrétien, il faut le devenir. Il faut se tourner vers le Seigneur. Et il faut reconnaître quelque part que notre vie dans la convoitise est vaine. Quand j'étais athée, je me vantais d'être libre et d'être plus intelligent que les chrétiens. Je disais, les chrétiens sont des idiots, des moutons qui suivent bêtement la religion. Et en plus, ils sont irresponsables et ils ne sont pas libres, ils ont plein d'interdits. Moi, je fais ce qui me plaît, je suis mon propre Dieu, je suis libre. Ça, c'était l'image que je voulais donner et que je voulais croire. Mais au fond de moi, bien au fond de moi, dans la réalité de mon cœur, de ma conscience, je savais que je n'étais pas libre, que j'étais esclave de mes passions, de mes vices. Certaines passions, j'aurais aimé m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Et cet esclavage me détruisait à petit feu, me rendait de plus en plus mauvais envers les autres. Je pensais être libre, mais j'étais enchaîné hein, à mes péchés. J'appelais pas ça des péchés, mais c'était quand même des péchés. Je pensais être plus intelligent, en fait, je suivais les modes. On pense que on est des gens supérieurs, particulièrement en France, qu'on est au-dessus de tout. Mais en fait, on suit les modes comme tout le monde. J'ai fait des études de gestion après le bac. On a appris des notions de marketing. Mais nous sommes gouvernés par le marketing. C'est le marketing qui fixe les modes. Il y a des gens qui pensent comment maintenant les gens vont s'habiller, quelles couleurs ils vont mettre et quelle forme de musique on va voir dans les radios. Tout ça est pensé. Tout ça est calculé. Pourquoi ? Pour avoir plus d'argent toujours. Hein ? C'est ça le but final. Et nous suivons les modes pensant être libres et en fait, on est en train de suivre ce que des gens ont pensé pour nous. Il y a des leaders d'opinion hein, qui influencent les autres avec des livres, avec des émissions de radio, avec des déclarations, etc. Et beaucoup de gens les suivent. Le chrétien est appelé à être vraiment libre, c'est-à-dire à suivre le Seigneur, à suivre la parole de Dieu, peu importe les modes. Alors, bien sûr, il y a des modes qui ne prêtent pas à problème. Si aujourd'hui, dans les magasins de vêtements, la couleur, c'est le pourpre, par exemple, je crois que c'est la couleur de l'année 2015. Hein. Chaque année, il y a une couleur officielle. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est décidé par, je ne sais pas qui d'ailleurs, il y a un comité qui décide la couleur de l'année. Voilà. Et donc c'est cette couleur que vous allez retrouver dans les objets de la vie quotidienne qui sont vendus, dans les vêtements. C'est la couleur principale. Franchement, que je mette du pourpre ou pas, ça ne va rien changer à ma vie chrétienne. De toute façon, dans les magasins, je n'aurai pas trop le choix, donc je vais suivre un petit peu cette mode-là. Par contre, si la mode, c'est les jeans taille basse, comme on dit, les décolletés jusqu'au nombril, etc. Alors là, une femme chrétienne hein, ou un homme chrétien va dire, là, je ne peux pas suivre, là, on n'est plus dans la décence, on est dans la nudité. Là, en tant que chrétien, je refuse de m'habiller comme ça. Il y a des choix à faire, on est responsable, on n'a pas à suivre aveuglément tout ce qui nous est dit ou fait. Comment vivre en 2015 ? Justement, il faut avoir cette attitude de ne pas se laisser influencer par le monde qui est sous le prince de ce monde, même si on ne croit pas au diable. Nous, on y croit, mais ceux qui n'y croient pas, ils suivent le diable quand même parce qu'il est le prince de ce monde. Un autre passage aussi de l'Écriture, c'est 1 Pierre 2, dans le chapitre 2. Il parle de cette liberté. Verset 16, 1 Pierre 2, 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, etc. Le chrétien est libre parce qu'il est libéré par le Seigneur, libéré des passions, des convoitises qu'il avait avant. Il peut vraiment être libre. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment c'est fort cette phrase, hein? Et c'est vrai. Mais la liberté ne doit pas couvrir la méchanceté, dit Pierre. C'est-à-dire, c'est pas parce que, ah, mais moi je suis libre, je fais ce que je veux, que je peux commencer à critiquer tout le monde, à haïr les gens, à faire n'importe quoi. Non, la liberté du chrétien, c'est la liberté d'être comme Dieu, d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire je dois être un serviteur, je dois avoir cette attitude humble d'être au service des autres, je dois honorer tous ceux qui m'entourent, honorer c'est-à-dire eh bien, ne pas les mépriser, ne pas se moquer, ne pas juger, ne pas calomnier. Combien de chrétiens tombent dans ce piège hein, de suivre la pensée du monde qui est de critiquer tout le monde et tout le temps? Dans les entreprises en particulier, hein, on est tout le temps, quand on a un moment de libre près de la machine à café, qu'est-ce qu'on fait ? On va parler du patron, on va parler du collègue. « T'as vu comment elle s'est habillée aujourd'hui ? Ah oui, t'as vu ce qu'elle a dit ? T'as vu ce qu'il m'a fait ?» Le chrétien, il ne doit pas suivre ces choses-là, parce que ces choses-là sont vaines, sont vides. Il doit être dans l'honneur. Il doit honorer ses collègues. Vous me dites, vous ne connaissez pas mes collègues ? Je n'ai pas besoin de les connaître. Il faut honorer ses collègues. Honorer sa famille. Vous ne connaissez pas mes parents. Honorez vos parents. C'est un commandement de Dieu. Honorez vos enfants. Honorez votre famille tout entière. Honorez vos compatriotes, tous ceux qui vous entourent. Tenez-les en haute estime. Soyez leurs serviteurs. Non pas comme un esclave, hein, mais comme quelqu'un qui a cet esprit d'amour et de service. Et puis, honorer le roi, il disait, il y avait un roi à l'époque qui qui n'était pas forcément pour les chrétiens, c'était même un persécuteur. Mais on doit honorer les autorités, la police, la justice, le gouvernement, les députés, les ministres. Bien sûr, on est très fort en France pour se moquer perpétuellement de ces personnes, mais le chrétien doit honorer toutes ces personnes. C'est comme ça qu'on ressemble à Christ et à Dieu. Le Seigneur a dit la vérité, hein, les quatre vérités même à tout le monde, mais toujours avec un grand respect. Toujours avec un grand respect. Bien sûr, ce que nous devons pratiquer le plus dans tout ça, c'est l'amour. Il dit aimer les frères. Et ailleurs dans la Bible, hein, il dit qu'on doit aimer tout le monde, aimer son prochain. L'amour, c'est ce qui caractérise le chrétien le plus. Plus vous regardez dans l'Écriture, plus vous voyez que c'est la marque du vrai chrétien. Jésus a dit, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À quoi voit-on un disciple? C'est quelqu'un qui a cet amour de Dieu, pas cet amour guimauve, qui est une pas l'imitation de l'amour de Dieu, mais cet amour viril, cet amour vrai qui se donne, l'amour agapé, qui se sacrifie même pour les autres. Je terminerai avec un verset de l'Épître aux Romains qui est assez connu, mais je vais vous le lire, Romains 12, verset 2, et qui résume un peu ce que nous avons vu, comment se comporter en tant que chrétien. Romains 12, verset 2 répond « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a deux choses, une négative et une positive. Négative, ne vous conformez pas, ne copiez pas, n'imitez pas le monde. Ne suivez pas ces modes, ces convoitises, ces façons de penser, ces raisonnements, ces jugements, ces attitudes. Mais soyez positifs, transformés, soyez renouvelés dans votre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois laisser ma pensée être calquée, transformée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est bon. Quelqu'un qui applique la parole de Dieu, les paroles de Jésus en particulier, aura une vie sainte, une vie magnifique, une vie qui va bénir les autres. Quelqu'un qui suit les paroles de Mahomet sera différent. Il y a vraiment une grande différence quand vous suivez l'exemple de Mahomet ou quand vous suivez l'exemple de Jésus. Et ici, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est laisser Dieu nous donner les bonnes pensées parce que les pensées de ce monde ne vont pas dans le bon sens. Et on se dit, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être en réaction, en révolution? Ça ne sert à rien d'être en réaction, en révolution. Je dois être renouvelé, transformé pour être comme Christ. Est-ce que vous n'avez pas rêvé en tant que chrétien de pouvoir être comme Christ, de pouvoir avoir les mêmes réparties qu'il avait, les mêmes façons d'agir? Oh là là! Il était tellement parfait. Il avait toujours la parole. Il avait toujours la compassion, le geste. Il était toujours là où il fallait être. Eh bien, nous avons l'esprit de Jésus-Christ et nous sommes chrétiens. Et nous pouvons l'imiter, être comme lui, lui ressembler. Ne pas nous conformer au marketing, mais nous conformer à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être des témoins dans ce monde. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit « Je vais vous laisser mon Saint-Esprit afin que vous soyez mes témoins. » Témoins. Nous sommes sur la terre pour être des témoins de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Nous devons avoir son amour, sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies, et ça doit se voir. Et on doit être prêt à souffrir pour ça, peu importe. Mais on doit apporter ce message, cet évangile au monde entier. Tous ceux qui nous entourent, nous voulons qu'ils soient sauvés. Nous voulons qu'ils connaissent le Seigneur. Nous voulons leur apporter la bonne nouvelle. C'est à eux après de l'accepter ou pas. Mais nous, nous voulons leur témoigner. S'il y a un moment où il faut témoigner de l'évangile, c'est maintenant. Il y a une ignorance, il y a des ténèbres telles qu'il faut apporter la lumière de Christ. Christ est vraiment la lumière qui éclaire les âmes. et qui sauve des ténèbres et du péché. Et nous avons un message extraordinaire, alors ne le gardons pas pour nous-mêmes, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas ressemblants au monde, mais soyons des petits Christ, des témoins fidèles qui, partout où ils vont, répandent la bonne odeur, le parfum de Christ. Amen. Je vais laisser Jean-François...